Chapitre 43. Même si elle aurait préféré se mettre tout de suite au travail, Nietzsche sentait le poids de la fatigue. Alors que devait-il en être de ses compagnons?
« Nous allons vous montrer vos chambres, » dit Victoria. « Il vous faut du repos. »
Elle baissa les yeux sur Chardon.
« Tu dois dormir, petite. »« Je suis encore éveillée et je veux aider. Nietzsche, demain j'étudierai avec toi. »«
Tu sais lire ?»
Je connais l'alphabet et je déchiffre un tas de mots. Et si je travaille avec toi, je ferai des progrès. J'apprends vite, tu sais.
Nathan eut un petit sourire.
Chère petite, j'apprécie ta bonne volonté, mais tu places la barre un peu haut. Certains textes sont rédigés dans des langues que je ne connais pas.
Nietzsche chercha le regard vif et pétillant de la gamine.
Lors de ma formation au Palais des Prophètes, j'ai passé 45 ans à apprendre les notions de base.
Chardon n'en crut pas ses oreilles.
« Je ne veux pas lambiner pendant 45 ans. » « Personne ne le désire. Comme tu es intelligente et puisque tu apprends vite, 40 ans suffiront peut-être. »
Chardon ne saisit pas tout de suite que la magicienne la taquinait.
« Mais nous devons vaincre le buveur de vie bien avant ce délai, sinon il ne restera rien à sauver. »«
Pour ce soir, reposez-vous tous, » dit Victoria. « Nous avons prévu une chambre pour chacun, austère mais grande. » Après avoir défait vos bagages, vous pourrez dormir.
Nous n'aurons pas grand-chose à défaire, dit Bannon. À cause des hommes poussières, nous avons tout perdu, à part les vêtements que nous portons.
Aucun problème, fit Victoria. Nous vous fournirons des habits, et nous repriserons et laverons les vôtres.
La mémoriste conduisit ses invités dans un secteur où il faisait frais et sec. Dans les chambres, des bougies parfumées composaient une agréable atmosphère. Très austère, en effet, ces pièces proposaient un petit bureau, un lit étroit, un pot pour la nuit, un broc d'eau et une cuvette. Une peau de mouton sur le sol tenait lieu d'équipement de luxe. Sur chaque lit, des vêtements propres attendaient les invités. Victoria proposa une chambre à Chardon, mais elle préféra rester avec Nietzsche.
« C'est souple, » dit Chardon après avoir essayé le lit.
« Mais ça va gratter. Je dormirai par terre. La peau de mouton m'ira très bien. »
Bien que la fillette ait l'air satisfaite de cet arrangement, Nietzsche voulut en savoir plus.
« Pourquoi as-tu refusé cette chambre? Tu aurais pu dormir tout en sou. »
Chardon bomba le torse.
« Je dois rester près de toi pour te protéger. »«
C'est inutile, je suis une magicienne. »
Désormais assise en tailleur sur la peau de mouton, la fillette sourit.
« Deux yeux de plus, ça ne fait jamais de mal. Je veillerai sur toi. »
Même si elle refusait de l'admettre, la petite orpheline n'avait aucune envie d'être seule.
« Très bien, cher garde du corps, » dit Nietzsche. « Mais si tu veux être efficace, il faut te reposer. »
Quand la magicienne et la petite fille eurent enfilé les vêtements propres, un serviteur vint chercher les leurs. La robe de Chardon aurait besoin de sacrée reprise et celle de Nietzsche ne valait guère mieux. Quand le domestique fut parti, Nietzsche fit l'inventaire de ses maigres possessions. Pour l'aider, Chardon posa le tout sur le bureau, ajoutant ses propres biens. Son couteau, des bouts de ficelle, de petits paquets de nourriture presque vides. Malgré sa fatigue, la gamine se révéla d'humeur bavarde.
« Je n'ai ni frère ni sœur, » dit-elle. « Et toi, tu n'aurais pas une fille par hasard ?»
Nietzsche arrangea son lit, une paillasse en réalité, et réfléchit à la question sans se retourner.
« Une fille ? Quelqu'un comme Chardon, par exemple ?»
Cette idée ne lui avait plus traversé l'esprit depuis longtemps. Pensive, elle tapota sa lèvre inférieure où elle portait jadis l'anneau d'or de Jagang.
« Non, pas de fille. »
Une réponse très simple, somme toute.
« Alors pourquoi avoir hésité ?»«
Ça n'a jamais fait partie de mon plan de vie. »
À force de servir sous les tentes et d'être la bête à plaisir de l'empereur, elle aurait pu tomber enceinte. Mais ses talents de magicienne avaient quelques avantages annexes. Donner la vie, elle. Très tôt, elle avait appris à ne rien ressentir. Pas d'amour, nulle passion. Chardon étudia les objets que Nietzsche avait retirés de sa robe et de sa bourse, puis elle déballa un petit paquet.
« Une fleur ! »
s'exclama-t-elle.
« Tu l'avais avec toi tout le temps ?»
Nietzsche arracha le paquet à sa protégée.
« Ne touche pas à ça ! »
cria-t-elle. Le cœur battant la chamade. Chardon baissa la tête.
« Désolé, je ne voulais pas. Eh bien, je...
Elle s'éclaircit la gorge.
Tu dois y tenir beaucoup. C'est un cadeau de ton amoureux ?
Nietzsche sourit, amusé par cette idée.
Bannon avait bien eu des intentions romantiques, mais elle les lui avait fait ravaler.
Non, pas du tout. Les violettes tueuses sont empoisonnées, la pire toxine du monde.
Nietzsche remballa la fleur et la posa sur une haute étagère au-dessus de son lit.
On meurt dans d'atroces souffrances. Je me demande s'il existe une pire façon de finir sa vie. Tu vois, tu me protèges aussi,
fit Chardon ravi.
Toutes les deux, on veille l'une sur l'autre.
La fillette se roula en boule sur sa peau de mouton, prête à s'endormir. Nietzsche souffla une bougie. Avant qu'elle ait pu éteindre les autres, Chardon demanda
« Si ce poison est vraiment dangereux, pourrait-il nous débarrasser du buveur de vie ?»«
Non, j'ai peur qu'il ne soit pas assez puissant pour ça. »
Chardon acquiesça, s'enveloppa dans la peau de mouton et ferma les yeux.
« Alors nous devrons trouver un autre moyen. »
Fatigué, Nietzsche recourut à son pouvoir pour éteindre les autres bougies. Bien qu'il brûlât d'envie de découvrir les trésors de surplomb du monde, Nathan dormit très longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait en sécurité, bien au chaud et douillettement installé. Après s'être réveillé en pleine forme, il fila au réfectoire et dut se contenter de quelques miettes. Levé bien plus tôt que lui, les érudits n'avaient pas laissé grand-chose. Confortable, la longue tunique, en vigueur dans la forteresse, n'avait rien pour satisfaire un passionné d'élégance.
Tant pis, il s'y ferait jusqu'au retour de ses vêtements, qui en jetaient beaucoup plus, même dans leur état douteux.
L'esprit vif, le vieux sorcier fila se plonger dans les grimoires qui l'aideraient à réduire en bouillie ce fichu buveur de vie. Dans la première salle, il passa en revue tout un mur, couvert de rayonnages, des milliers d'énormes volumes. Sur les tables de travail, des érudits penchés sur des parchemins déroulés conversaient à voix basse ou prenaient des notes sur de petites ardoises. Devant le nombre de livres qui s'offraient à lui sur un seul mur, la pièce en ayant trois autres, et à l'idée que des dizaines de salles similaires l'attendaient, Nathan eut le tournis. Que de connaissances regroupées en un seul endroit ! Au palais des prophètes, pendant 1000 ans, les livres avaient été sa fenêtre ouverte sur le monde. Récemment, Richard l'avait autorisé à consulter tous les ouvrages conservés au palais du peuple en Dara, des recueils de prophéties pour l'essentiel. À savoir, des textes qui ne servaient plus à rien. Ici, les volumes contenaient peut-être la clé de l'avenir du monde. Tout ça allait tellement au-delà des quelques mots énigmatiques de rouge dans le livre de vie. Cerné par les livres, Nathan eut le sentiment d'être revenu chez lui, un très grand chez lui, dans une situation peu brillante.
Esprit du bien, comment trouver des informations ici autrement que par hasard ?
Il fit les 100 pas devant les rayonnages, guettant l'inspiration. Ses 3 délicieuses acolytes sur les talons, Victoria vint le rejoindre.
« Avec mes mémoristes, nous sommes là pour t'aider, sorcier Nathan. Le système de classement de Simon se révèle déconcertant. À vrai dire, il est le seul à s'y retrouver. Mais j'ai mémorisé bien des textes, et chacun de mes acolytes en connaît une multitude par cœur. » Si nécessaire, je peux aussi faire venir Gloria, Franklin et 10 autres mémoristes parfaitement entraînés. Il te suffira de t'asseoir et de nous écouter réciter les volumes. »
Nathan continuait à s'étonner que ces jeunes beautés ou leurs collègues aient pu mémoriser des milliers de pages de formules magiques compliquées. Même si elles n'en comprenaient pas le sens, c'était un sacré exploit. Sous le regard des 3 superbes jeunes femmes, le vieil homme s'empourpra.
« Vos compétences m'impressionnent, madame, et je me réjouirais d'être en compagnie de telle beauté, mais elle me distrairait, j'en ai peur. Des années durant, j'ai lu des livres avec mes propres yeux, et c'est comme ça que je procéderai ici. »
Victoria ne cacha pas sa déception.
« Depuis des générations, les mémoristes sont hautement respectés. « Nous possédons les informations que tu cherches. Dis-nous ce qui t'intéresse et nous trouverons dans notre mémoire les ouvrages pertinents. Ces livres sont un moyen très statique de préserver la pensée. Avec nous, elle sera vivante et nous te dirons tout ce que nous savons. »
Devant tant d'insistance, Nathan se sentit mal à l'aise et il était pressé de commencer à travailler à sa façon.
Je ne suis pas convaincu, hélas. Avec vous, ce ne sera pas moi qui choisirai les ouvrages, et je n'ai pas le temps de vous entendre réciter les milliers de pages d'un seul livre. »
Le vieux sorcier passa les doigts sur le dos d'un grimoire dont il ne comprenait même pas le titre.
« Je ne connais pas toutes les langues, la preuve, mais je ne suis pas si mauvais que ça et je lis très vite. »«
Mais tu n'auras pas accès à tous les livres. Tu as vu la tour qui a fondu lors de l'accident. Les ouvrages qu'elle contenait ont été détruits. »«
Tes mémoristes les ont appris par cœur. »
Les trois jeunes splendeurs acquiescèrent.
« Presque tous, oui. Nous ne savons pas exactement quels livres sont perdus. » Pour l'essentiel, il s'agissait de recueils de prophéties, mais certains devaient être mal classés.
Nathan soupira de soulagement.
Des prophéties? Avec le changement stellaire, les prédictions ne servent plus à rien. Elles ne nous aideraient pas, surtout dans notre combat contre le buveur de vie.
Il y avait pourtant la prédiction de Rouge, difficile à écarter d'une pensée nonchalante. Et la magicienne devra sauver le monde.
Devant la réaction du sorcier, Victoria ne cacha pas son indignation. « Si c'est ce que tu veux, nous allons te laisser à tes études. Mais n'oublie pas que les mémoristes sont à ta disposition. Nous avons enregistré des textes que Simon et ses érudits n'ont même pas commencé à lire. »
Nathan se fendit de son plus beau sourire.
« Merci beaucoup. Ici, tout le monde est si généreux. Si ce que nous cherchons est dans vos archives, nous trouverons... « Ensuite, nous neutraliserons le buveur de vie. »
Le vieil homme sentit le rouge lui monter au front. De belles paroles, mais dans son état, il ne serait pas très utile pendant cette bataille.
« Nietzsche est une magicienne très puissante, il ne faut pas la sous-estimer. Quand on la surnommait maîtresse de la mort, elle semait la terreur sur son passage. »
Victoria ne parut pas impressionnée, le genre de femme que rien ne faisait reculer.
« La maîtresse de la mort, de ce côté-là nous sommes déjà servis. Espérons qu'elle pourra rendre la vie à la vallée naguère fertile. »
Victoria partit avec ses acolytes, laissant Nathan tête à tête avec des archives sans dessus-dessous. La démarche logique était de découvrir le sort d'origine, celui qui avait créé le buveur de vie. Mais où le chercher? Le sorcier avait une autre priorité. S'il retrouvait son pouvoir, il serait en mesure d'aider Nietzsche. Dans de telles archives, il devait y avoir des informations sur ce qui lui était arrivé, ou au minimum, une carte montrant la position exacte de Colader. Nathan fit le tour de la salle en laissant courir ses doigts le long de rangées de livres. Par où commencer? Il n'en avait pas la moindre idée. Prenant un volume au hasard, il alla s'asseoir à côté d'une érudite si concentrée qu'elle ne leva pas les yeux de sa lecture. Ouvrant son grimoire, un incunable, Nathan tourna les pages, certain d'apprendre des choses utiles quoi qu'il arrive.